السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام معدودة فمن كان منكم مريضا ولا سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ومن تطوع خيرا فهو خير الله وأن تصوموا خير لكم وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا ولا سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ان آیات کا یہ ترجمہ ہے کہ اے وہ لوگو.
La traduction de ces versets est comme suit. Ô vous qui croyez, le jeûne vous est prescrit tout comme il a été prescrit à vos devanciers, afin que vous puissiez adopter la taqwa. Le jeûne est prescrit pour un nombre de jours déterminé, mais quiconque d'entre vous est malade ou est en voyage devra jeûner un nombre égal d'autres jours. Pour ceux qui ne peuvent jeûner qu'avec difficulté, il y a une expiation, notamment nourrir un pauvre. Et quiconque fera le bien de son propre gré, cela est mieux pour lui. Et le jeûne vous est bénéfique si seulement vous le saviez. Le mois du Ramadan est celui pendant lequel le Coran a été révélé comme guide pour l'humanité, avec des preuves claires sur la direction et le discernement. Par conséquent, quiconque d'entre vous est présent chez lui pendant ce mois doit y jeûner. Mais quiconque sera malade ou sera en voyage devra jeûner pendant le même nombre d'autres jours. Allah désire la facilité pour vous. Il ne désire pas de la privation pour vous et il désire que vous complétiez le nombre de jours et que vous exaltiez sa grandeur pour vous avoir guidé, et que vous lui soyez reconnaissant. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, certainement je suis tout prêt. J'exauce la prière du suppliant quand il m'implore. Ils doivent donc m'écouter et ils doivent croire en moi, afin qu'ils soient bien guidés. Par la grâce d'Allah, pour une année de plus, nous avons l'occasion de connaître un autre Ramadan. N'oublions jamais que vivre et passer par un autre Ramadan ne suffit pas. L'objectif du Ramadan ne se limite pas à prendre un repas le matin et de rompre son jeûne le soir. Allah nous ordonne d'apporter en nous des changements purs grâce à ces jeûnes et en raison de ces jeûnes. Allah nous a donné des instructions en référence au jeûne et il nous donne aussi la bonne nouvelle de sa proximité et de l'exaucement de nos prières si nous respectons ses instructions. J'ai cité quelques versets dans lesquels Allah attire notre attention sur l'obligation des jeûnes du Ramadan. Allah explique aussi qu'on est exempté du jeûne si l'on est malade ou pour d'autres raisons valables. Il faudra cependant remplacer ces jeûnes ultérieurement ou payer la fidya. On doit payer la fidya si l'on est affecté par une longue maladie ou si l'on n'arrive pas à jeûner du tout. Mais même si l'on est capable de jeûner ultérieurement, il est mieux aussi de payer la fidya si l'on en possède les moyens. Ensuite, ces versets évoquent l'importance du Saint-Coran et sa révélation. Ces versets nous informent qu'il faudra lire le Saint-Coran, qu'il faudra mettre en pratique ses préceptes. Ce sont là autant de moyens pour renforcer la direction et renforcer notre foi. C'est aussi un moyen pour établir une relation avec Dieu et c'est un moyen pour comprendre ses préceptes. Ensuite, dans ce verset, Allah demande au saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, d'offrir cette bonne nouvelle aux croyants. Ô prophète, dit-il, je suis proche de mes serviteurs et j'entends et j'exauce leurs prières. D'ailleurs, le saint prophète Mohammed Bissosa, lui, a déclaré que Dieu descend au ciel le plus bas au cours du Ramadan, c'est-à-dire qu'il exauce à foison les supplications de ses serviteurs. Or, Allah déclare que si vous souhaitez que j'exauce vos prières, vous allez devoir suivre mes instructions. Vous allez devoir suivre mes commandements. Et ce, pas uniquement au cours du mois du Ramadan. Mais ces vertus devront faire partie intégrante de votre vie et vous allez devoir renforcer votre foi. Ainsi, il existe certaines conditions pour l'exaucement des prières. Lorsque nous allons embellir nos prières en accord à ces conditions, eh bien, Allah se rapprochera de nous et Allah exaucera aussi nos prières. Pour le sermon d'aujourd'hui, je présenterai certains dires du Messie premier al-Islam concernant les supplications et les prières, concernant leur importance, la réforme de notre conduite, ainsi que les conditions favorisant l'exaucement des prières, la philosophie des prières ainsi que leur profondeur. Beaucoup parmi nous prient de manière superficielle pour ensuite déclarer que Dieu n'a pas exaucé nos prières. C'est comme s'ils avaient demandé à Dieu d'accomplir une tâche qui lui incombait, une tâche qu'il était obligé d'accomplir. C'est comme si, qu'Allah nous en préserve, Allah est obligé de nous obéir. Et qu'Allah doit obéir à ces personnes, quels que soient leurs propos, quelles que soient leurs actions. Allah a expliqué clairement ici que cela ne se fera pas. Vous allez devoir en premier m'obéir. Vous allez devoir conformer vos actions aux préceptes du Saint-Coran. Et d'ailleurs, le Ramadan augure une atmosphère de vertu et les dars ont aussi débuté. Vous allez devoir prendre en considération mes directives et mes ordres. Vous allez devoir réfléchir et vous allez devoir écouter ces conseils. Et vous allez devoir les traduire dans la pratique. Vous devez examiner votre foi et voir à quel point elle est forte. Face à une difficulté ou face à une épreuve, votre foi n'est-elle pas en train de chanceler? En tout cas, c'est l'homme qui doit faire le premier pas dans ce domaine. Et la grâce de Dieu et la compassion de Dieu vont se manifester lorsque l'homme va atteindre l'apogée dans ce domaine. Il est crucial pour nous de saisir ces points. Le Messie premier l'Islam déclare « La prière est la fierté spéciale de l'Islam et les musulmans en sont très fiers. » Mais rappelez-vous, la prière n'est pas synonyme de parole en l'air. La prière vise à emplir le cœur de la crainte de Dieu et de faire en sorte que l'âme du suppliant coule telle de l'eau sur le seuil divin. Et qu'il quémande la puissance et la force du Dieu Tout-Puissant pour se débarrasser de ses faiblesses et de ses écarts de conduite. Cet état peut être qualifié de mort en d'autres termes. La porte de l'exaucement de la prière est ouverte à celui qui passe par cet état. Une force et une grâce et une persévérance spéciale lui sont octroyées pour éviter le mal et pour persévérer dans l'accomplissement de bonnes œuvres. Cette méthode est la plus puissante. Ceci est la méthode pour prier, ceci est la méthode pour se rapprocher de Dieu, ceci est la méthode pour se faire pardonner ses péchés et pour faire en sorte que ses prières soient exaucées et pour se débarrasser de ses péchés. De nos jours, la question suivante est très courante, à savoir, comment savons-nous que nos péchés ont été pardonnés et que Dieu est satisfait de nous? Le Messie Premier Al-Salam nous présente un principe de base à cet égard. Si l'on nourrit une relation véritable et permanente avec Dieu, une relation pour laquelle on a fait un réel effort, eh bien, Allah octroie la force pour éviter le mal. L'on arrive non seulement à éviter le mal, mais l'on reçoit aussi le pouvoir de faire le bien et ce, en permanence. Si cela n'est pas le cas, l'on ne pourra affirmer que l'on jouit de la proximité de Dieu. Par conséquent, l'on ne peut être un véritable dévot que lorsqu'on réfléchit en ces termes et lorsqu'on agit en conséquence. Et nous devrons œuvrer en ce sens au cours de ce Ramadan. Je vais vous présenter quelques conseils du Messie Premier Al-Salam concernant la prière. Le Messie Premier Al-Salam explique ainsi la question de l'exaucement de la prière. Il déclare la question de l'exaucement de la supplication est en fait une branche du problème de la prière. Logiquement, celui qui n'a pas compris l'essence aura des difficultés à comprendre les branches. Pour comprendre quelque chose, il faudra saisir la base, il faudra comprendre la base. Si l'on ne comprend pas l'essentiel, l'on ne pourra pas comprendre les points annexes et les autres commentaires. Le Messie Premier Al-Islam déclare : la prière engendre un lien d'attraction entre un dévoué serviteur et son Seigneur. Il y a cette relation d'attraction entre le serviteur et son Seigneur. Autrement dit, la miséricorde de Dieu attire le serviteur vers lui. Ensuite, par l'attraction de la sincérité du serviteur, Dieu se rapproche de ce dernier. Si les efforts de l'adorateur sont sincères, Allah va se rapprocher de lui. Le Messie Premier Al-Islam déclare que dans l'état de la prière, la relation atteint certains seuils et génère ses merveilles. Et quand l'adorateur est dans une situation difficile et qu'il s'incline vers Dieu avec une foi parfaite, une espérance parfaite, un amour parfait, une loyauté parfaite, un courage parfait, et qu'il affine sa conscience au maximum, et qu'il se débarrasse de ses négligences, et qu'il avance dans la voie de l'immolation de l'âme, eh bien, il va contempler la cour de Dieu, et il ne va pas voir de partenaire avec Dieu. Et son âme repose sa tête sur ce seuil. C'est-à-dire qu'il ne voit que Dieu et Dieu uniquement, tout disparaît de sa vue. Aucune chose au monde n'a d'importance à ses yeux, il ne voit que Dieu et personne d'autre. Lorsque l'adorant passe par un tel état et ne voit que Dieu, son âme repose sa tête sur le seuil de Dieu. Et la force d'attraction qui est placée entre lui et Dieu attire les bienfaits de Dieu. Il existe aussi un pouvoir d'attraction dans le serviteur, un pouvoir qui attire les faveurs de Dieu. Sur ce, Allah se consacre à l'achèvement de cette œuvre. Et cette prière a un effet sur toutes les causes fondamentales. Allah exerce son influence sur les moyens de base et les autres conditions nécessaires à l'accomplissement de cette œuvre. Le Messie Prophète Islam déclare : ceci donne lieu aux moyens nécessaires pour atteindre cet objectif. Par exemple, si l'on prie pour la pluie, après avoir répondu à la supplication, Dieu engendre les causes naturelles nécessaires à la pluie par l'effet de cette prière. Et si l'on prie pour la fin d'une famine, le Tout-Puissant va créer les moyens pour y mettre fin. Le Messie promet l'Islam affirme plusieurs milliers de miracles sont apparus par l'entremise des prophètes, où tous les miracles et les prodiges accomplis par les saints jusqu'à ces jours découlent en fait des supplications. Et souvent, ces merveilles montrent la puissance de Dieu le Tout-Puissant, et ce, grâce à l'effet des prières. Le Saint-Coran regorge également d'innombrables prophéties. De plus, de nombreuses prophéties se sont accomplies à l'époque du Messie premier à l'Islam. Nombre de ces paroles se sont accomplies, nombre de personnes pieuses ont vu des rêves pieux qui se sont accomplis. Tout cela démontre l'effet des prières et ces événements ont lieu lorsque le serviteur s'incline sincèrement devant Dieu. Le Messie premier d'Islam déclare, Allah affirme dans le Saint-Coran, « Walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana » Et quant à ceux qui font des efforts pour notre cause, eh bien, nous les dirigeons vers nos voies. L'adorateur en premier doit entreprendre des efforts, et cette responsabilité lui incombe en premier. Ceci est une promesse, et d'autre part, il y a la prière « Ihdina surat al-mustaqim », c'est-à-dire « Guide-nous sur le droit chemin ». Allah a fait la promesse que si vous faites des efforts, je vous guiderai sur le droit chemin, et d'autre part, il nous a aussi enseigné la prière « Ihdina surat al-mustaqim », à savoir « Guide-nous sur le droit chemin ». Voilà l'objectif de l'homme, et il doit supplier Dieu en ces termes avec insistance et ardeur, tout en espérant être de ceux qui ont progressé et de ceux qui ont acquis le discernement. L'homme ne doit pas quitter ce monde en étant dépourvu de discernement et en étant aveugle spirituellement. D'ailleurs, Allah déclare « Man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma » à savoir, celui qui est aveugle ici-bas sera aveugle dans l'au-delà. Celui qui est aveugle spirituellement ici-bas le sera dans l'au-delà. Celui qui s'est empêtré en ce monde et qui n'a pas reconnu Dieu ou n'a pas reconnu la sagesse de la prière ou leur effet, et celui qui se voue corps et âme à ce monde ne profitera pas de la proximité divine dans l'autre monde. Le Messie promet l'Islam déclare « La préparation pour l'au-delà débute en ce monde. L'objectif est de quitter ce monde avec les yeux pour voir l'autre monde. L'objectif est de quitter ce monde avec les yeux pour voir l'autre monde. Si nous voulons voir le monde à venir et jouir de la proximité de Dieu, nous devrons quitter ce monde avec les yeux pour le voir. La préparation des sens pour ressentir le prochain monde se fera ici-bas. Est-il possible qu'Allah fasse une promesse et qu'il ne la respecte pas? Il affirme que l'aveugle signifie celui qui est dépourvu de connaissances spirituelles et de plaisirs spirituels. Celui qui est né dans une famille musulmane et suit aveuglement l'islam. sa foi est aveugle et il n'accomplit aucune œuvre. Il se dit musulman tout simplement parce qu'il est né dans une famille musulmane. Il se dit musulman tout simplement parce qu'il est né dans une famille musulmane. De même, un autre se dit chrétien tout simplement parce qu'il est né dans une famille chrétienne. C'est pourquoi pareil individu n'a aucun respect pour Dieu, son messager ou le Coran. D'ailleurs, son amour pour la religion est douteux. L'amour de la religion de celui qui suit la religion aveuglement est également douteux. Il fait partie de ceux qui calomnient Dieu et son messager. La seule raison est que pareille personne ne possède pas d'œil spirituel. Il nourrit aucun amour pour la religion. D'ailleurs, qu'est-ce que l'amant aime contre son bien-aimé? S'il y a de l'amour, l'amant n'aime rien qui soit contre son bien-aimé. Allah affirme, « Je suis prêt à offrir la religion si vous êtes prêt à l'apprendre. » La prière est donc la préparation pour suivre ses conseils. Ainsi donc, durant ces jours, récitez souvent la prière « Ihdina Surat al-Mustaqim » afin qu'Allah nous guide sur le droit chemin, afin qu'Allah purifie nos cœurs et afin qu'Allah fasse de nous des véritables adorateurs et afin que nous puissions nous acquitter de nos devoirs envers autrui, afin que nous ne soyons pas comme les extrémistes d'aujourd'hui qui oppriment les gens au nom de Dieu et au nom de son messager. Que la protège tout le monde du mal de tels oppresseurs. Certaines personnes disent que nous sommes devenus si pécheurs que Dieu ne nous pardonnera pas. D'aucuns demandent dans quelle mesure le pécheur peut-il être pardonné. Et d'aucuns s'empêtrent davantage dans les péchés en se disant qu'ils ne seront pas pardonnés. En fait, Satan insinue ses pensées dans leur cœur. Satan utilise cette tactique pour détourner les gens de Dieu. Et de telles personnes ne cessent de jouer entre les mains de Satan. Le Messie premier d'Islam nous explique comment éviter les attaques de Satan et comment sortir de ses griffes. Il explique que le pécheur ne doit jamais cesser de prier en pensant à ses nombreux péchés. Ne cessez pas de prier en pensant que vos transgressions sont légion. Le Messie premier d'Islam déclare « La prière est un antidote ». À la fin, le pécheur, à travers ses prières, ressentira du dégoût pour ses transgressions. La prière est le remède pour éviter les péchés. Lorsque vous prierez constamment, vous commencerez à haïr le péché. Satan prendra la fuite. Ceux qui sont plongés dans les transgressions et désespèrent de l'exaucement de la prière et ne se repentent pas, ni en fin de compte les prophètes et leurs effets sanctifiants, et ces gens se détournent de la religion. Pareil individu se détourne de la religion, ensuite il se détourne des prophètes pour sombrer dans l'athéisme. Ainsi, l'islam offre une lueur d'espoir à ceux qui sont plongés dans les péchés. Et par ce mois de Ramadan, Allah nous offre l'occasion chaque année de nous repentir de nos péchés. Ainsi donc, il faudra profiter de ce mois. Le Messie promet l'Islam évoque la révélation suivante qu'il a reçue, à savoir « Ujibu kullu du'aik », c'est-à-dire « J'exaucerai chacune de tes prières ». Il déclare « Mon Seigneur m'a révélé qu'il va exaucer chacune de mes prières ». Mais je comprends très bien que « tout » ici signifie « ces prières qui ne lèsent pas », c'est-à-dire ces prières qui ne sont pas nuisibles. Cela ne signifie pas que toutes mes prières seront exaucées. Tout ici signifie le rejet de ces prières qui sont nuisibles. Mais si Allah souhaite l'éducation morale et la réforme, le rejet de cette supplication est en fait son exaucement. Parfois, les prières ne sont pas exaucées, et l'on croit que ces prières ont été rejetées par Dieu, tandis qu'il les a exaucées. Le rejet de cette supplique est en fait son acceptation. Dans son cas, dans l'invisible et dans la réalité, le rejet de la prière est en fait son acceptation. Son bien-être réside en fait dans le rejet de cette supplique. L'homme est myope et il n'est pas clairvoyant, et il se contente de ce qui est apparent. Et quand il implore Dieu et qu'en apparence sa supplication n'a pas été fructueuse, il ne doit pas douter de la personne de Dieu et il ne doit pas s'imaginer que sa prière n'a pas été exaucée. Dieu écoute les prières de tout le monde. Il affirme en effet « Ud'uni astajib lakum ». Le secret et le mystère est que la bonté et la bienveillance à l'égard du suppliant exigent que sa prière soit rejetée dans ces cas. Le Messie promet l'Islam s'appesantit sur le même thème en ces termes. Il déclare « Voici le principe de la supplication. Allah n'est pas obligé de les exaucer selon nos estimations et nos souhaits. Une mère éprouve une grande affection pour son enfant et ne désire pas que son enfant souffre. Cependant, si l'enfant insiste et pleure pour qu'on lui mette entre les mains un couteau aiguisé ou un tisson de feu brûlant, la mère, en dépit de son amour sincère et de sa compassion, va-t-elle exaucer les souhaits de son enfant pour brûler sa main pour le couper? Certainement non. Tel est le principe de l'exaucement de la prière. J'en ai moi-même fait l'expérience, dit le Messie premier d'Islam. La supplication n'est pas exaucée quand elle comporte un aspect nuisible. C'est-à-dire, toutes mes prières ne sont pas exaucées. Allah sait le mieux et il connaît l'invisible. Si ma prière comprend un aspect nuisible, eh bien, cette prière ne sera pas exaucée. Le Messie promet l'Islam ajoute « Notre savoir n'est point certain ou exact. Ceci est facile à comprendre. Nous jugeons bénite nombre de nos œuvres, croyant que leur résultat sera positif. Au final, cependant, ces actions sont accompagnées de tristesse et de malheur. » Les exemples foisonnent à cet égard. Je reçois des lettres à cet effet au quotidien. Certains prient pour une entreprise quelconque et ces personnes tentent d'accomplir cette entreprise de force, mais les résultats ne sont pas positifs. Ensuite, ils se plaignent en disant que nous avions beaucoup prié, nous avons commencé ce travail en faisant beaucoup d'aumônes, mais le résultat n'était pas positif ou notre prière n'a pas été exaucée. Premièrement, l'on doit se demander si l'on a poussé ces supplications à leur apogée. A-t-on établi avec Dieu la relation qu'il s'y est d'établir? Sinon, ce ne sera là que des paroles en l'air, comme l'explique le Messie premier à l'Islam. Si la supplication a été poussée à l'extrême et qu'Allah l'a rejetée et que cette prière n'a pas été fructueuse, ceci était en fait en accord à la sagesse d'Allah et c'était dans l'intérêt de l'homme. Et si l'on insiste en raison de son erreur, au lieu d'émettre des doléances contre la personne de Dieu, l'on doit demander pardon pour avoir commis une erreur en disant « J'ai insisté tandis que cette entreprise n'était pas en ma faveur ». Certains demandent à Dieu d'accepter leur requête, même si cela n'est pas bon pour eux. Et cela se produit également pour certains mariages. Allah a entendu les prières de l'intéressé, il a pu se marier là où il souhaitait, mais après un certain temps, le couple s'est séparé. L'on ne doit pas faire pareille prière. Parfois, pour donner une leçon, Allah exauce certaines des prières qui ne sont pas bonnes pour l'intéressé. Et quand le résultat se manifeste, c'est là qu'on se repent et qu'on demande pardon à Dieu. Le Messie promet les salams déclare : ainsi, nous ne pouvons affirmer que nos désirs sont tous légitimes. L'homme, en raison de sa nature, commet des erreurs et il est oublieux. L'homme commet des fautes. C'est pour cette raison qu'il est inévitable que certains de ses désirs soient nuisibles et il serait contraire à la rahma, à la miséricorde de Dieu, d'exaucer ses moindres souhaits. Certains désirs sont nuisibles. Et si l'on est le bien-aimé de Dieu, celui-ci n'acceptera pas ses prières qui sont contraires à son statut de miséricordieux. Allah ne laisse pas souffrir ainsi ses bien-aimés. Le Messie promet l'Islam déclare : il est certain que Dieu entend les prières de ses serviteurs et qu'il les exauce. Cependant, il n'exauce pas les supplications de tout le monde, car l'homme, aveuglé par sa passion, ne cesse de prier, ne voyant pas la fin et le résultat. Il ne connaît pas le résultat de ses prières. Or, Allah éprouve une compassion sincère à l'égard de l'homme, et il connaît les conséquences de ses suppliques, et il prend en considération les effets nuisibles et les mauvaises conséquences qui peuvent affecter le suppliant en cas de l'exaucement de sa prière. Et il rejette ainsi cette supplication. Le rejet de cette supplication est en fait son exaucement. Ceci est le principe de Dieu à l'égard de ses proches. Le rejet de cette prière est en fait son acceptation. Allah exauce les prières qui protègent l'homme des accidents et des malheurs. Il rejette ces prières qui lui sont néfastes. C'est là leur exaucement. À maintes reprises, j'ai reçu cette révélation, j'exaucerai toutes tes prières. En d'autres termes, toute prière qui est avantageuse est exaucée par Dieu. Ceci est l'explication fournie par le Messie promet l'Islam. La prière avantageuse sera exaucée par Dieu. Le Messie promet l'Islam affirme : quand cette idée me traverse le cœur, mon âme est emplie de joie et de sérénité. J'ai reçu cette révélation environ 25 ou 30 ans de cela. J'étais très heureux qu'Allah acceptera certainement mes prières en ma faveur ou en faveur de mes amis. Et je me suis dit qu'il faut éviter toute avarice dans cette affaire parce que c'est une récompense divine. Et Allah déclare à propos des muttaqis « وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ » à savoir qu'ils dépensent de ce dont nous les avons pourvus. Et j'ai comme règle en faveur de mes amis qu'ils me font des rappels à ce sujet, qu'ils soient confrontés à des difficultés ou pas. Je prie pour eux en toute situation, je prie pour leur bien-être religieux et mondain. Le Messie promet l'Islam explique ainsi les conditions pour l'exaucement des prières. Il déclare : sachez que l'exaucement des supplications est régi par plusieurs conditions. Certaines concernent ceux qui prient et d'autres s'appliquent à ceux qui font des requêtes de prière à autrui. Celui qui fait des requêtes de prière à autrui doit craindre Dieu à tout instant. C'est un point très important. Celui qui fait des requêtes de prière à autrui doit à tout instant craindre Dieu. Et ils doivent craindre Dieu parce qu'il est indépendant. Il faut toujours craindre Dieu et il faut adopter une attitude conciliante et empreinte de crainte de Dieu. Ceci est important. Il faut adopter une attitude conciliante et empreinte de crainte divine. Ces personnes doivent, par l'entremise de leur taqwa et à leur conduite, plaire à Dieu. Sur ce, la porte de l'exaucement des prières s'ouvriront à ces personnes. Quand ces conditions seront respectées, Allah va exaucer les prières. Et s'il s'attire la colère divine, si ces gens se brouillent avec Dieu, si ces personnes ne suivent pas les commandements de Dieu, si ces personnes ne s'acquittent pas de leurs devoirs envers Dieu et envers autrui, eh bien, leur méchanceté et leur péché seront des obstacles dans la voie de l'exaucement des prières en leur faveur. La porte de l'acceptation de la prière est fermée pour pareilles personnes. Ses propres prières et les prières de la personne à qui il a demandé de prier pour lui ne seront pas acceptées en sa faveur. Le Messie promet l'Islam ajoute, « Ainsi, il incombe à mes amis de ne point laisser partir en vain mes supplications et ils ne doivent pas placer des obstacles sur leur voie, des obstacles qui naîtront en raison de leur comportement indigne. » Le Messie promet l'Islam explique que si les actions d'une personne ne sont pas justes, ses prières ne seront pas acceptées en leur faveur. En fait, ces actions deviendront un obstacle sur le chemin de l'acceptation de ses prières. Un autre aspect extrêmement important pour l'acceptation des prières est que l'on doit être complètement ferme dans ses croyances. C'est une condition fondamentale et l'on doit accomplir de bonnes œuvres. L'accomplissement d'actions pieuses a également été expliqué plus tôt. Allah déclare que l'on doit respecter ses injonctions, doit répondre à son appel. Ceci est fondamental pour l'acceptation des supplications. Le Messie promet l'Islam explique cela davantage. Il déclare « Celui qui n'agit pas ne prie pas. » Voir, il est en train d'éprouver Dieu. D'où la raison d'user de toutes ses forces avant de prier. Voilà le sens réel de la prière. L'homme doit tout d'abord analyser ses croyances et ses œuvres, car selon la pratique divine, la réforme dépend de la présence des moyens. Si l'on dispose des moyens indispensables pour se réformer et que l'on s'évertue à rectifier sa conduite, c'est là que l'on pourra se réformer. Le Messie promet l'Islam déclare « Il crée des moyens qui sont à la cause de la réforme de l'intéressé. Si l'on prie avec une grande sincérité, eh bien Allah va engendrer des moyens permettant de provoquer cette réforme. » Le Messie promet l'Islam ajoute « Ceux qui affirment que les œuvres sont superflues parce qu'ils ont prié doivent réfléchir à ce propos. » Ils sont des imbéciles. La supplication est en soi un moyen secret qui engendre d'autres moyens. La clause « Iyyaka na'budu » « C'est toi seul que nous adorons » précède la supplication « C'est toi seul que nous implorons à l'aide ». Et ceci explique précisément ce point. En d'autres termes, nous implorons Allah seul et nous cherchons son aide pour l'accomplissement de nos tâches. Ainsi, nous constatons qu'Allah crée les moyens selon sa pratique. Allah crée les moyens pour l'homme. Il nous offre l'eau pour étancher notre soif et des aliments pour apaiser notre faim. Il le fait par des moyens. La soif ne s'apaise pas d'elle-même, ou l'eau ne tombe pas du ciel comme par magie, ou la nourriture n'apparaît pas du néant. L'eau et la nourriture sont disponibles par certains moyens. Le Messie promet l'Islam explique « Ainsi, la présence des moyens est essentielle, car Allah possède ces deux noms, Al-Aziz, le puissant, et Al-Hakim, le sage. Kan Allahu Azizan Hakim. Il est Aziz, car il a le pouvoir de tout faire, et il est Hakim, il est sage, car toutes ses œuvres sont sujettes à la sagesse et sont à bon escient. » Les plantes et les minéraux possèdent des propriétés. Quelques grammes de turpète, une plante médicinale, peuvent causer une purge. Il en est de même de la scamonée. Dieu possède le pouvoir d'occasionner une purge sans l'usage de moyens ou d'étancher la soif sans l'eau. Elle a le pouvoir de causer une purge sans l'usage de moyens ou d'étancher la soif sans l'eau. Mais il souhaite aussi accorder la connaissance des merveilles de la nature. Il souhaite accorder la connaissance des merveilles de sa nature, car autant l'on accroît ce savoir, autant l'on sera au courant des attributs de Dieu, permettant ainsi de se rapprocher davantage de Dieu. Grâce à la médecine et à l'astronomie, nous découvrons des milliers de qualités présentes dans la nature. Si l'on réfléchit d'un point de vue spirituel, pour un scientifique qui croit dans l'unicité de Dieu, eh bien, tous ces différents aspects de la création ou toute découverte qu'il fera sera une preuve de l'existence d'Allah et sera ainsi un moyen pour renforcer sa foi. Cependant, un athée, quant à lui, va affirmer que tout cela n'est qu'une simple coïncidence. Le Messie promet l'Islam déclare que la raison pour laquelle Dieu a révélé les merveilles de la nature est pour que l'on comprend que tout a un but dans la vie. Ensuite, le Messie promet l'Islam déclare que mes suivants adoptent la voie de la taqwa, car la taqwa résume la charia. Si l'on souhaite décrire la charia, eh bien l'essence de la charia est la taqwa. La taqwa comporte plusieurs étapes. Or, si le chercheur est sincère et s'il parcourt la première étape avec constance et sincérité, il atteindra un niveau très élevé en raison de sa droiture et en raison de sa sincérité. Allah déclare « Innama yataqabalullahu minal muttaqin » Allah exauce les prières des muttaqi. C'est là une promesse divine. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. C'est là une promesse divine. D'ailleurs, Allah ne brise pas ses promesses, tout comme il l'affirme. Inna Allah la yukhliful miyad. Allah ne brise pas ses promesses. Inna Allah la yukhliful mi'ad. La taqwa est donc une condition indispensable à l'exaucement des prières. Il est sot et naïf celui qui est négligent et celui qui est dissipé tout en souhaitant que ses prières soient exaucées. Il incombe de ce fait aux membres de Majamat de marcher sur les voies de la taqwa, afin qu'ils puissent goûter aux délices de l'acceptation de la prière et afin qu'ils grandissent dans leur foi. Allah déclare que l'on doit croire en lui et c'est là que la foi ne cessera de se renforcer. Le Messie premier l'Islam explique ici-bas les diverses formes de la miséricorde divine. Il déclare qu'il existe deux formes de miséricorde divine. Premièrement, il y a la Rahmaniya et deuxièmement, la Rahimiya. La grâce divine de la Rahmaniya est à l'œuvre avant même notre naissance. À titre d'exemple, grâce à la perspicacité de sa connaissance éternelle, Allah a créé un ciel et une terre et divers objets en ce monde et des corps célestes qui sont utiles à notre existence. Ce sont les humains qui bénéficient en fin de compte de toutes ces créations. Les chèvres, les moutons et les autres animaux sont bénéfiques à l'homme. Mais quel bénéfice tire-t-il de leur existence, ces animaux ? Tous ces éléments ont été créés pour le bien-être de l'homme. Ces objets ne tirent aucun bénéfice de leur propre existence. Parmi ces objets du monde physique, voyez comment les humains consomment une multitude de formes de nourriture exquises et excellentes. La viande de haute qualité est réservée aux humains, tandis que les restes et les os sont jetés aux chiens. Au niveau physique, les animaux jouissent aussi des mêmes plaisirs et conforts dont jouissent les êtres humains. Mais ils sont en fait le privilège de l'humanité, ses plaisirs et ses conforts. Et les animaux ne jouissent pas du plaisir spirituel. Le plaisir spirituel est réservé aux êtres humains et les animaux n'y sont pas inclus. Par conséquent, il existe deux formes de miséricorde. Premièrement, ce qui a abouti à la création des éléments et la matière voués à notre service, et ce depuis les temps les plus reculés et avant même notre existence. Leur existence précédait notre existence, nos désirs et nos prières. Ces objets existaient en vertu des exigences de la Rahmaniyya. Ces objets étaient présents avant notre naissance, avant nos désirs, avant nos prières, et tout cela est dû à la Rahmaniyya de Dieu. La deuxième forme de bienfaisance est la Rahimiyya, c'est-à-dire lorsque nous prions, Allah nous accorde. À y réfléchir, il sera évident qu'il existait de tout temps une relation entre la loi de la nature et la prière. Certaines personnes considèrent la prière comme une innovation, cependant, je souhaite également m'appesantir sur la relation entre notre prière et Dieu, c'est-à-dire la relation entre la prière d'un être humain et Dieu. Le Messie promet d'Islam déclare « Quand l'enfant affamé et impuissant pleure pour son lit, le lait coule à foison des seins de sa mère. L'enfant ignore ce qu'est la prière. Pourquoi ses pleurs attirent-ils le lait ? C'est là une expérience universelle. Parfois, les mères ne ressentent même pas la présence du lait dans leur sein, mais dès que les pleurs déchirants de l'enfant atteignent leurs oreilles, le lait commence à couler. Nos cris adressés à Dieu ne peuvent-ils rien attirer ? En effet, la faveur divine jaillit et tous nos cris sont entendus. Mais ceux qui sont aveugles et se considèrent comme des savants et des philosophes sont incapables de voir. Si un individu garde à l'esprit la relation qu'un enfant entretient avec sa mère et réfléchit à la philosophie de la prière, cela deviendra très simple et facile pour lui de comprendre ce sujet. La deuxième forme de miséricorde nous enseigne qu'une forme de grâce est reçue suite à une requête. Si une personne continue de supplier, elle continuera à recevoir. Allah déclare « Udhurni astajib lakum ». Ce n'est pas une phrase vide de sens, il s'agit d'un trait inhérent à la nature humaine. Le Messie promet l'Islam explique que supplier est humain et répondre aux supplications est divin. Il déclare « Supplier Dieu est inné à l'homme et exaucer les supplications est inné à Dieu. Menteur est celui qui ne comprend pas ce principe et qui ne supplie pas. » L'exemple de l'enfant qui pleure présente à merveille la philosophie de la prière. La Rahmaniyya et la Rahimiyya ne sont pas deux attributs indissociables. Celui qui désire l'un sans l'autre n'en aura aucun. La Rahmaniyya exige que nous engendrions en nous l'aptitude à implorer les faveurs de la Rahimiyya. Grâce à la Rahmaniyya, Dieu nous a guidés et il nous a fourni les moyens nécessaires. Et il nous accorde la force pour ce que nous devons recevoir en le suppliant. La Rahmaniyya nous offre les moyens de le supplier et de chercher sa grâce. Le Messie promet l'Islam déclare « Celui qui n'agit pas de la sorte fait preuve d'ingratitude envers Dieu pour ses faveurs. Iyakanabodu signifie « Nous t'adorons tout en ayant recours aux moyens que tu as mis à notre disposition. » C'est-à-dire, nous t'adorons par l'entremise de ces moyens. Le Messie promet l'Islam présente ici l'exemple de la langue. La langue est composée de nerfs, de veines et de muscles et de glandes salivaires. Si la langue n'était pas ainsi faite, il serait impossible de s'exprimer. Quand la langue est asséchée ou si elle n'est pas humide, l'on ne peut pas parler. Si la langue n'est pas humide, eh bien, on ne pourra pas la bouger. Ainsi, nous possédons une langue pour prier et pour exprimer les sentiments de nos cœurs. Ne pas l'utiliser pour implorer Dieu sera le comble du malheur. Ainsi donc, nombre de maladies affectent le bon fonctionnement de la langue, rendant ainsi l'homme muet.
Bas ye kaisi
Ainsi, de par sa rahimia, Dieu nous a accordé une langue. Et si l'appareil auditif est affecté, l'on ne pourra rien entendre. La langue est tributaire de la rahmania de Dieu. Peut-être qu'il est question ici de rahmania. En tout cas, la langue est un don de la rahmania. Et Dieu nous a enseigné comment l'utiliser. Et ceci découle de sa rahimia. Si l'appareil auditif est affecté, l'on ne pourra rien entendre. Il en est de même du cœur. Il peut se faire humble, il peut réfléchir, il peut méditer. Si elle tombe malade, elle perdra toutes ses facultés. Les aliénés, à titre d'exemple, perdent leurs facultés mentales. Ne devons-nous pas remercier Dieu pour autant de faveurs de sa part? Sans aucun doute, nous serons ingrats envers Dieu pour ses faveurs si nous n'usons pas des facultés qu'il nous a octroyées. Si nous les abandonnons, la prière ne nous sera d'aucun recours. Comment profiter des autres dons divins sans user de ses premiers dons? À travers ces exemples, le Messie premier l'Islam explique clairement que l'on doit être reconnaissant pour les faveurs octroyées par Allah et utiliser ces faveurs à bon escient. De plus, il faut implorer Allah afin de pouvoir utiliser correctement ses facultés et c'est là que l'on pourra respecter les exigences de sa servitude envers Dieu. Et ce n'est qu'à ce moment-là que l'on pourra vraiment être reconnaissant pour les faveurs divines. Et c'est cette gratitude même qui permet d'attirer la grâce d'Allah. Et ces facultés accordées par la rahmania permettent de profiter de la rahimia de Dieu. Et par ce faire, on peut être témoin des merveilles de l'acceptation des prières. Le Messie promet l'Islam explique, par conséquent, les paroles « Iyyaka na'budu, c'est toi seul que nous adorons » proclament « Ô Seigneur de tous les mondes, nous n'avons pas abandonné le don que tu nous as accordé. » Et dans la prière « Ihdina surat al-mustaqim », nous demandons à Dieu la véritable perspicacité, car sans sa grâce et sans sa générosité, nous, humbles êtres humains, nous serons plongés dans une grande obscurité, et nous ne pourrons même pas recourir à la prière. C'est la grâce d'Allah qui nous guide, et c'est la grâce d'Allah qui nous accorde de l'aide. Sinon, l'homme est extrêmement faible, et il s'empêtre dans le monde et dans ses ténèbres. Et pareille personne n'aura même pas la possibilité de prier. Le Messie promet l'Islam, par conséquent, tant que l'on ne tire pas profit de la grâce de Dieu qui découle de la rahmania et que l'on ne prie pas, il n'y aura pas de résultats fructueux. Il faudra implorer Allah pour sortir des ténèbres. Le Messie promet l'Islam explique, j'ai découvert quelque temps de cela, que même dans le droit britannique, pour garantir un prêt agricole, il faut fournir la preuve de certains actifs. Pour avoir un prêt agricole et même pour contracter un prêt immobilier ou pour une hypothèque, il faut en premier faire un paiement ou faire un dépôt ou donner une garantie. Il faut fournir la preuve de certains actifs et il faut effectuer une action préalable. Le Messie promet l'Islam déclare, de même, il faut garder à l'esprit la loi de la nature et se demander si nous avons fait bon usage de ce qui nous a été octroyé. Si, ayant été bénis avec la raison et le bon sens, les yeux et les oreilles, nous ne sommes pas égarés et que nous n'avons pas suivi les voies de la folie et de l'ignorance, eh bien, nous allons recevoir davantage de grâce divine si nous prions davantage. Si quelqu'un ne s'est pas égaré après avoir obtenu ses facultés et que cette personne prie, eh bien cette personne va recevoir d'autres faveurs divines. Sinon, il n'y aura que dénuement et malheur. Si on n'utilise pas à bon escient ses facultés qui nous ont été conférées, les prières ne serviront à rien et l'on sera frappé de dénuement et de malheur. Nous devons prêter une attention particulière à ce sujet. Le Messie premier l'Islam explique qu'on trouve dans la loi de la nature des signes de l'exaucement de la prière. Et Dieu envoie des signes vivants à cet effet à toute époque. C'est pour cette raison qu'il nous a enseigné cette prière « Ihdina surat al-mustaqim, surat al-ladina anamtar alayhim ». Tel est le désir de Dieu et sa loi. Personne ne pourra les modifier. En récitant la prière « Ihdina surat al-mustaqim », nous demandons à Dieu de parachever nos œuvres. En récitant la prière « Guide-nous sur le droit chemin », nous demandons à Dieu de parachever nos œuvres. En méditant sur ces paroles, l'on trouve apparemment l'ordre enjoignant la supplication. La Surat al-Mustaqim nous recommande d'implorer Dieu. Or, la formule « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in » nous informe que nous devons user des aptitudes qu'Allah nous a octroyées afin de pouvoir marcher sur la Surat al-Mustaqim. Ainsi, il est essentiel d'avoir recours aux moyens. Celui qui abandonne les moyens est un ingrat. La formule « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in » nous informe que nous devons user les aptitudes qu'Allah nous a octroyées afin de pouvoir marcher sur la Surat al-Mustaqim. Il est essentiel d'avoir recours aux moyens. Et celui qui abandonne les moyens est un ingrat. Pour accomplir de bonnes œuvres, il faudra demander l'aide d'Allah. Le Messie premier l'Islam déclare « Dieu nous a octroyé une langue pour l'implorer et une langue à même d'exprimer les sentiments de nos cœurs. » Il en est de même du cœur. Le cœur peut se faire humble, peut réfléchir et peut méditer. Si nous abandonnons ces moyens, la prière ne nous sera d'aucun recours. Comment profiter des autres dons divins sans user de ses premiers dons? En disant « Iyyaka na'budu » avant « Ihdina surat al-mustaqim », nous affirmons que nous n'avons pas abandonné et dissipé tes premières faveurs. La Rahmaniya a pour but de nous rendre aptes à profiter de la Rahimiya, d'où la déclaration divine. Ce ne sont guère des paroles en l'air. Elle exige à l'homme de s'élever. Supplier est une qualité innée en l'homme et celui qui ne désire pas que ses prières soient exaucées de la part de Dieu est un transgresseur. Celui qui n'implore pas Dieu est un transgresseur. Le Messie premier l'Islam ajoute « La prière offre une grande félicité. Les mots me manquent pour décrire ce plaisir et cette extase. » Il faut le vivre pour le ressentir. Les premières conditions avant de pouvoir prier sont l'accomplissement de bonnes œuvres et le fait de renforcer ses croyances et sa foi. Celui qui ne corrige pas ses croyances et qui n'accomplit pas de bonnes œuvres pour ensuite prier, cette personne tente en fait de mettre Dieu à l'épreuve. La prière « Guide-nous sur le droit chemin » a pour but de parachever nos œuvres. Nous demandons ensuite à Dieu de nous mener sur la voie de ceux qui ont mérité ses faveurs. Ensuite, nous supplions, protège-nous de la voie de ceux qui ont attiré ta colère en raison de leurs mauvaises actions. Nous prions aussi, protège-nous de la voie des égarés afin que nous ne soyons pas privés de ton soutien. Ainsi donc, quand on récite la Sourate Al-Fatiha, il faut méditer en ce sens et prier en ce sens. Le Messie premier l'Islam explique qu'il faut prendre en considération les moyens apparents au cours de la prière. Il déclare « Prenez garde, la prière qui est mentionnée dans le verset « Implorez-moi et je vous répondrai » et celle qui requiert l'esprit que je viens de décrire. Si les supplications et ces humbles expressions sont dénuées de sincérité, eh bien, ce ne sera là que de simples cris. Qui peut affirmer qu'il n'y a pas lieu d'avoir recours aux moyens? C'est là un malentendu. La charia n'interdit pas l'usage des moyens. La prière n'est-elle pas un moyen ou les moyens ne sont-ils pas synonymes de prière? La recherche même des moyens est en elle-même une prière et la prière en elle-même est une magnifique source de moyens. La champ porte physique de l'homme, c'est-à-dire ses deux mains et ses deux pieds, nous permettent de comprendre naturellement que nous avons été créés pour nous entraider. Étant donné que cela est observable chez les êtres humains, à quel point serait-il étonnant si on avait du mal à comprendre le verset « Ta'awanu al-birri wa taqwa » Je proclame que vous devez même chercher les moyens par la prière. Dans le contexte de l'aide à votre prochain, je n'attends pas à ce que vous rejetez ma conclusion quand j'ai souligné le système interne établi par Allah existant dans votre corps et qui sert de guide parfait à cet égard. Et afin de clarifier et d'expliquer davantage ce fait à l'humanité, Dieu a institué le système de prophètes. Et s'il le voulait, Dieu était capable de faire en sorte que les prophètes n'aient pas besoin de chercher l'assistance d'autrui pour accomplir leur mission. Mais à un moment, ces prophètes annoncent « Qui sont mes assistants pour la cause d'Allah ?» Les prophètes font-ils cet appel comme un mendiant qui va de maison en maison pour ramasser des miettes de pain ? Pas du tout. Les mots « Man ansari ilallah » sont empreints de majesté et de grâce. En effet, à travers cette annonce, les prophètes désirent enseigner au peuple l'importance de la recherche des moyens physiques, et cela est un aspect de la prière. Sinon, ces prophètes ont une foi et une croyance complète et parfaite dans les promesses de Dieu. Ils savent que la promesse suivante d'Allah est définitive. Inna la lansuru rusulana wallazina amanu fil hayati dunya. Nous aidons certainement nos messagers et ceux qui croient en la vie présente. Ceci est une promesse certaine et inchangeable. Le Messie promet l'Islam déclare que je crois que si Dieu n'émeut pas le cœur d'un tel pour aider un autre, comment quelqu'un pourrait-il être motivé à le faire? Ainsi, même les prophètes exigent l'usage de moyens parents, mais ils se prosternent devant Allah, et c'est Allah qui leur accorde ces moyens en inspirant le cœur des gens et leur accorde ainsi d'excellents assistants qui font avancer leur mission. Le Messie promet l'Islam explique le but et l'importance de la salat par rapport à la prière. L'objectif premier de la salat est son cœur et la supplication. Supplier Dieu est en accord à la nature de l'homme. Quand l'enfant pleure et est perturbé, sa mère inquiète lui offre son lait. Voilà la relation entre la divinité et l'adorateur, une relation que tout le monde n'est pas à même de comprendre. Quand l'homme tombe devant le seuil de Dieu et qu'il présente son cas et ses demandes dans la plus grande humilité, la compassion divine s'anime et se manifeste en sa faveur. Le lait de la grâce et de la compassion divine exige aussi des pleurs, et il faudra aussi faire preuve d'humilité, d'où la raison de lui présenter des yeux remplis de larmes. Le Messie premier Islam déclare, « D'aucuns rejettent l'idée qu'il ne sert à rien de pleurer et de se lamenter auprès de Dieu. Ce sont là des idées mensongères. Ces gens-là n'ont pas foi dans le pouvoir et les attributs de Dieu. Ils n'auraient pas eu le courage d'entretenir pareilles idées s'ils possédaient la foi. Tout repenti sincère s'étant présenté à Dieu a toujours été récipiendaire des faveurs divines. Ceci a été décrit dans des vers en persan. Il est dit dans ces vers, « À quoi sert l'amoureux qui ne regarde pas dans la direction de son bien-aimé ?» Toi qui ne ressens aucune douleur, sache que le médecin est présent. À quoi sert l'amoureux qui ne regarde pas dans la direction de son bien-aimé? Toi qui ne ressens aucune douleur, sache que le médecin est présent. C'est-à-dire, engendre en toi cette peine, car Allah écoute certainement les prières. Dieu souhaite que vous vous tourniez vers lui avec le cœur pur. La seule condition est que vous devez suivre ses injonctions et vous devez vous transformer entièrement afin d'être digne de vous rapprocher de lui. En vérité, Dieu possède des pouvoirs merveilleux et des faveurs et des bénédictions sans fin. Or, ayez les yeux emplis d'amour pour les voir. Dieu exaucera les prières et accordera son soutien à celui qui éprouve un amour sincère pour lui. Ensuite, le Messie promet l'islam, déclare « Allah a défini ainsi les croyants. يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. » C'est-à-dire que les croyants sont ceux qui se souviennent d'Allah debout, assis et couché sur leur côté et qui méditent sur la création des cieux et de la terre. Et lorsque les subtilités de l'univers leur sont manifestées, ils disent « Notre Seigneur, tu n'as pas créé tout cela en vain. » En d'autres termes, pareils croyants ne regardent pas seulement la création de l'univers et ses subtilités comme les gens de ce monde et qui se demandent simplement quelle est la forme de la Terre, quelle est la taille de son rayon, quelle est la nature de son attraction gravitationnelle et quelle est sa relation avec le soleil, quelle est sa relation avec la lune et les étoiles. Ils ne se contentent pas de poser ces questions. En apprenant la perfection absolue de la création de Dieu et en découvrant ses subtilités, ils cherchent à trouver son Créateur et à renforcer leur foi. En d'autres termes, après avoir acquis la connaissance, ils se prosternent devant Dieu, tout comme je l'ai mentionné plus tôt, et ils continuent à renforcer leur foi. Et c'est là une qualité distincte d'un véritable croyant. C'était là quelques points que j'ai présentés à partir de ce grand trésor que le Messie promet l'Islam nous a légué. Il nous a éclairé sur l'importance de la prière, sur sa sagesse, sur sa méthode, sur sa philosophie. Si nous saisissons ces points, nous pourrons provoquer un changement extraordinaire dans notre existence et nous pourrons développer un lien spécial avec Allah et être le récipiendaire de ses bénédictions. Ainsi, au cours de ce Ramadan, nous devons nous efforcer de nous rapprocher de Dieu en respectant ses commandements et nous devons renforcer notre foi. Nous devons développer une vraie compréhension de la sagesse et de la philosophie de la prière et réformer notre conduite. Et nous devons tenter de faire partie de ceux dont les prières sont exaucées par Allah l'Exalté. Que ce Ramadan nous permette d'apporter une transformation extraordinaire dans notre relation avec Allah et dans notre spiritualité. Priez aussi pour vos frères. Je demande souvent des prières pour eux, qu'ils soient au Pakistan, en Algérie ou ailleurs dans le monde, où ils doivent endurer des épreuves en raison de leur appartenance à l'Ahmadiyya. Au Pakistan, des incidents se produisent quotidiennement, l'on tourmente les Ahmadis d'une manière ou d'une autre au quotidien. Priez particulièrement pour les Ahmadis. De même, en Algérie, les autorités tentent de rouvrir des dossiers contre les musulmans Ahmadis. Qu'Allah accorde sa protection à ces Ahmadis. Le fait de prier pour les autres favorise l'exaucement de ses propres prières. C'est une formule qu'il ne faut jamais oublier. En fait, les anges prient pour ceux qui prient pour les autres. Et mériter les prières des anges est une transaction hautement profitable. Ainsi, il faut prier spécialement pour les autres et pas uniquement pour soi-même. Qu'Allah nous accorde la possibilité de le faire, en particulier au cours de ce Ramadan. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله
ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.